Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Something waits in the dark. Something monstrous. Something evil. Something only part human, living to satisfy its unspeakable cravings and unnatural lusts. They feed on fear. They thrive on terror. The night is the hunting ground and women are the prey. Who will satisfy them next? If it finds you, pray. But all it does is kill you. Something waits in the dark.
Au sommaire aujourd'hui, une émission teintée de fantastique et surtout d'horreur. Et oui, nous allons aborder Morgana de Juraj Hertz, Le continent des hommes-poissons de Sergio Martino, deux sorties, Artus Film. Après, nous parlerons également de films édités par Rimini Éditions, à savoir Audrey Rose de Robert Wise et Douce nuit, sanglante nuit de Charles E. Sellier. Et puis, on ira faire un tour du côté d'ESC avec Thanatomorphose d'Eric Falardo, Blue Holocaust de Joe D'Amato et La dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Enfin, nous aborderons Pyromaniac de Joseph Ellison, sorti chez The Ecstasy of Film. L'équipe de Culture Prohibée remercie Juliette Béguet, Sandrine Hiver, Kevin Boissezon, Christophe Cosins, Thierry Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Émission qui, nous vous le rappelons, est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer horreur et fantastique, je suis aujourd'hui accompagné de deux créatures particulièrement effrayantes, surtout le soir dans la nuit picarde. Je veux bien sûr parler de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, et également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur Podcloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Et puis, bien sûr, le loup-garou amiénois, le fameux Thomas Roland, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédac-chef. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien et salut à toutes.
Nous parlions à l'instant de la revue Prime Cut, de cette revue de cinéma éditée par The Ecstasy of Film. On va rester chez ce même éditeur pour la sortie événement d'un vrai film glauque emblématique d'un certain cinéma indépendant US, celui des Grindhouse. D'ailleurs, un cinéma évoqué très largement dans un très bon bonus qui s'appelle Grindhouse All Stars, que vous pourrez voir sur cette galette éditée par The Ecstasy of Film. On va causer d'une rareté dont nous gardions tous, nous, cinéphiles déviants, précieusement la VHS éditée par Scherzo Video, avec une version en VO sous-titrée, d'ailleurs, à l'époque. De toute façon, il n'y a pas de VF à ce film, en vérité. Alors, qu'est-ce que raconte l'histoire ? Alors c'est le seul film avec un psychopathe prof de maths, en fait. Alors, non, je m'explique. Hein. En vérité, Dan Grimaldi, qui fait le rôle de Donald Kohler, dans la vraie vie, est un prof de maths qui a toujours enseigné, en fait, et qui a toujours partagé sa vie entre... il n'a pas beaucoup tourné, mais il a un peu joué dans des séries télé, tout ça. Et il est resté professeur aussi toute sa vie. C'est une destinée un peu particulière, un peu singulière. Et là, c'est son premier rôle. Hein. Donc, il interprète Donald Kohler, surnommé Donnie Kohler. Bon, qui est un type qui va pas très bien dans sa tête quand même. Hein. Il faut dire les choses comme ça. Alors, il est à l'usine, hein, parce qu'il bosse à l'usine. Et bon, je pense que c'est une usine qui travaille le verre ou un truc comme ça. En tout cas, il y a des fours. Et il y a un de ses collègues, parce qu'il y a une bombe aérosol qui est dans un four, qui n'a rien à y faire, mais qui est là. Donc ça explose, et il y a un de ses collègues qui crame devant lui. Et il reste extatique. Alors tous ses collègues réagissent autour pour essayer de sauver leur collègue de travail. Hein. Et lui, il reste extatique, il regarde. Comme ça, il subit presque la scène. Puis après, il subit le courroux de ses collègues hein, qui lui disent « Non mais oh, t'es un malade, toi, quoi, il fallait nous aider pour sauver notre collègue. » Alors on tarde pas à découvrir, en fait, la nature profonde de ce jeune homme qui vit seul avec sa vieille mère acariâtre dans une maison filmée comme le motel de Norman Bates. Étonnant, non ? Et en fait, eh bien, cette dernière, lorsqu'il était enfant, le torturait avec du feu. Elle le tenait pour responsable du mauvais sort qu'elle avait subi de la part de son mari et donc du père de Donnie Kohler. Et elle lui mettait les avant-bras au-dessus de la gazinière et elle allumait les brûleurs, voilà, pour le punir d'être un homme, d'être un garçon, d'être un jeune homme. Voilà. Donc évidemment, lui, ça va un peu le travailler. Et puis il se trouve que, bon, bah voilà, dès le début du film, sa mère va mourir. Et ça va être pour lui un élément déclencheur. Et Danny va se muer en psychopathe, adepte du lance-flammes. Et ouais, c'est comme ça. Donc chez lui, il a une pièce dont les murs sont totalement amiantés. Alors à l'époque, l'amiante, ça fait peur à personne. Hein. C'était une autre époque. Dont les murs sont totalement amiantés. Et il arrive à... la première qui en fait les frais, c'est une très jolie fleuriste. Il arrive comme ça à persuader des femmes de venir chez lui. Et elles finissent... la première finit nue et brûlée dans une scène assez marquante. Et même avec le traitement numérique... de la belle restauration là en 2K qui est effectuée par le TCS, le labo TCS qui a fait un super beau boulot. Même avec la restauration, les images restent assez saisissantes, je trouve, parce que parfois les effets comme ça qui sont pas les effets à l'ancienne surpassent mal le numérique, même si nous en vieux cinéphiles on s'en fout en fait, mais enfin parfois ça peut être un peu réducteur pour le film. Là c'est pas le cas, ça reste quand même assez glauque. D'ailleurs après on ne reverra pas hein. Il va faire d'autres victimes mais on ne le reverra pas brûler les femmes et tout, enfin ça va rester hors champ. Le film est déjà assez glauque comme ça. Si le film en particulier son final, peut évoquer le maniaque de Lustig. Bon, avec des têtes coupées qui sont remplacées ici par des cadavres brûlés habillés de dentelle. Le film se révèle toutefois un peu moins puissant que le Lustig, il faut le dire. En particulier parce que Dan Grimaldi, l'acteur principal, n'a pas la force d'incarnation de Joe Spinell. On rappelle quand même que Joe Spinell... enfin, c'est un acteur assez extraordinaire, hein, quand même. Hein. Pyromaniac n'en demeure pas moins un film vraiment singulier. Un grand moment de cinéma glauquissime. C'est très, très glauque. C'est un peu la réponse, moi je le mettrais dans la même catégorie, la réponse 80s à un excellent film des années 70 qui, pareil, est une petite série B avec un petit budget et tout, mais qui est très, très glauque aussi, qui s'appelle Deranged, de Jeff Gillen et Alan Ormsby, sur laquelle Bob Clark a travaillé, qui est en fait une sorte de mise en image de la vie d'Ed Gein, le fameux tueur qui a inspiré le personnage de Norman Bates et le personnage de Leatherface, vous savez, qui découpait, qui faisait des costumes avec la peau de ses victimes. Voilà, un truc assez horrible. Hein, voilà. Donc... Pyromaniac, c'est un vrai petit joyau noir de la série B qui, donc, avec Maniac et Driller Killer, forme une sorte de trilogie officieuse pour moi de la psychopathie US des années 80. Le portrait d'une Amérique
dégénérée. On est juste avant l'Amérique qui gagne de Reagan, en fait, juste avant. C'est une Amérique là, dégénérée, une Amérique post-Vietnam. C'est une Amérique dans laquelle le mal est plus que jamais endogène. Sujet qui trouvera bien sûr son apogée dans un sublime film de John Carpenter qui s'appelle The Thing. J'ai pas besoin de vous le préciser. Donc ça s'appelle Pyromaniac. C'est signé Joseph Ellison. C'est un véritable classique méconnu de la série B horrifique. C'est sorti chez The Ecstasy of Film. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors en plus, les bonus sont assez sympas parce qu'à un moment, vous allez voir ce que c'est que changer le son sur une bande-annonce. Il y a la bande-annonce du film. Parce qu'à un moment, il y a une scène dans une boîte de nuit que je ne vous décrirai pas, parce qu'il faut quand même vous laisser quelques surprises. Et donc, ils ont fait une bande-annonce un peu disco. Alors, c'est les mêmes images, c'est hyper glauque, sauf qu'il y a de la musique disco par-dessus, puis il y a la bande-annonce sans la musique disco. Elle est ultra flippante, la bande-annonce avec la musique disco, bah, je ne sais pas, ça prend une autre dimension. Enfin, vous verrez. Alors, en tout cas, on vous conseille vivement cette édition de Pyromaniac. En plus, elle s'est fait attendre, on l'attendait. Moi, c'est un de mes petits films cultes et je suis très, très content de pouvoir voir Pyromaniac dans une superbe copie de K. Donc, Pyromaniac de Joseph Ellison, c'est disponible chez The Ecstasy of Film. Alors, un peu moins violent quand même maintenant, un peu moins glauque. Je vais passer la parole à l'ami Thomas Roland pour qu'il nous parle d'un merveilleux film tchécoslovaque de Juraj Hertz, Morgiana.
Peut-on qualifier Morgiana de film fantastique ? Là est la grande question. Un film de Juraj Hertz, donc comme tu l'as dit, réalisé en 1972, qui raconte l'histoire de deux sœurs qui ont hérité. Et il y en a une qui est pas contente parce qu'elle veut tout. Donc elle se met en tête d'empoisonner sa sœur. Oui, elles sont jouées par la même actrice. Donc elle se met en tête d'empoisonner sa sœur pour pouvoir avoir tout l'héritage pour elle toute seule. Alors il y en a une qui est rousse, il y en a une qui est brune, habillée tout en noir. Bon, ça part un peu cliché comme ça, mais ça passe vraiment très bien. Et le titre est assez énigmatique, Morgiana, parce qu'en fait, c'est le nom du chat. Il y a un chat dans l'histoire, le chat de la méchante, là, de la méchante sœur, qui est là, qui meurt, qui ressuscite. Enfin, c'est très bizarre, c'est un film assez bizarre. Et donc, la méchante sœur va se procurer un poison qu'elle va diluer un peu tous les jours dans la boisson de sa sœur, qui est alitée, qui n'est pas bien, qui est une jeune femme qui a l'air d'être sensible et fragile. Et le film est traversé comme ça d'images oniriques. Il y a toute une histoire, tout un truc de mise en scène avec les miroirs, où elle voit des apparitions dans les miroirs, où justement elle voit sa sœur verser du poison en reflet dans le miroir. Elle la voit pas en direct, elle le voit en reflet dans le miroir. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Et c'est un film assez étrange quand même. Hein. On ne sait pas très bien ce qui relève de l'onirisme ou de la réalité. Et il y a aussi une scène que moi je trouve très ambiguë sexuellement, hein, où il y a la méchante sœur qui regarde des femmes se baigner de nu. Alors je me dis qu'il y a quelque part là une ambiguïté sexuelle sur l'orientation de cette sœur-là, hein, qui n'est pas très claire. C'est une sorte d'ovni. Enfin, je pense qu'à l'époque, c'était peut-être un film assez avant-gardiste, hein, dans le contexte dans lequel il a été fait. Et il y a des images comme ça, très étranges. À un moment, on est dans un lupanar et puis on voit les prostituées dehors, très peu vêtues. C'est vraiment des images qui relèvent de l'onirisme et qui n'en sont pas, en fait, en plus. Et c'est un film très étrange, qui est à découvrir, quoi, je trouve. Je crois que Juraj Hertz, il faisait des films d'animation aussi, il me semble, non ?
Juraj Hertz, c'est surtout l'homme à qui on doit l'incinérateur de cadavres. Une très belle version aussi de La Belle et la Bête. Enfin, et Juraj Hertz, c'est vraiment un grand nom du cinéma tchécoslovaque. Et ce film, pour moi, oh oui, il est fantastique parce que l'ambiance du film fait que c'est un film fantastique. C'est un film, tu l'as très bien dit toi-même. Le film a des flottements, il y a des moments de l'histoire où il se passe pas grand chose, en particulier à un moment il y a des personnages masculins qui vont avoir un rôle important mais qui vont voir les prostituées, tout ça, puis il raconte pas grand chose, il se passe pas grand chose à ces moments là mais en même temps ce sont des images d'une grande beauté. Et puis Alors, il y a le côté onirique, mais il y a un côté carrément psychédélique, même pas à un moment, avec des comment dire, on joue sur la polarisation de l'image, avec les couleurs, c'est assez étonnant. Le film, c'est presque une sorte de profession de foi esthétique. Il y a des moments, on a l'impression d'être devant des peintures, tu parlais de ces femmes dans leurs costumes et tout, des peintures d'Alphonse Mucha ou de Gustav Klimt. On sent vraiment cette influence-là. Juraj Hertz, il a vraiment cette ambition-là. Et moi, je trouve que la mise en scène, en fait, elle est de plus en plus expérimentale au fur et à mesure que le personnage de Clara s'enfonce dans la folie. Et c'est pour ça que tu dis, en fin de compte, c'est onirique, ça l'est pas vraiment, parce que ce que ça raconte, bon, on n'est pas dans un rêve, quoi. Voilà, mais on est quelque part, on est dans la perception qu'a le personnage de Clara. On est dans le même état d'esprit qu'elle. On va pas bien, quoi, en fait. On est un peu empoisonné, parce que elle est un peu empoisonnée sur les bords, mais elle résiste bien aussi. Faut dire les choses, quoi. Donc, du coup, ça devient un film assez étonnant et vraiment singulier, franchement.
Et c'est vrai que les personnages masculins sont mis de côté, parce que les personnages à qui tu fais référence, ce sont des soldats. Ils apparaissent comme ça dans le dernier tiers du film. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils foutent là? On les voit jouer aux cartes. Et pourquoi, en fait? Qu'est-ce que ça ajoute à l'histoire, en fait? Puis il y a une histoire d'amour. Il y a deux hommes qui sont plus ou moins qui sont amoureux de la même femme, en fait. Mais c'est pas vraiment traité. C'est très bizarre. C'est aussi un film qui a de l'ironie, parce que bon, je l'ai vu deux fois, du coup, à la revoyure, à un moment, Victoria a une réplique, il faut, bon, je vais pas dire laquelle, mais qui annonce la fin.
Oui, et puis même ce chat, on se demande un peu ce qu'il fait là, et en fin de compte, c'est un personnage central, il est increvable, il a pas 9 vies, lui, il est increvable, il meurt, il ressuscite, constamment, et c'est lui, on a presque l'impression que c'est lui... Ah, qui nous raconte l'histoire quelque part. On a presque l'impression que c'est le chat l'alter ego d'Juraj Hertz. C'est assez étonnant, c'est un film vraiment singulier.
Bah, je me demande s'il n'incarne pas le destin aussi quelque part.
Oui, tout à fait, ouais, effectivement. Ouais. Non, vraiment, alors, ça franchement, c'est des pépites. Il faut soutenir Artus Film quand ils sortent des films pareils, quoi, parce que je sais que nos amis d'Artus Film aiment bien ce cinéma des Pays de l'Est, ce cinéma merveilleux. Ils nous sortent régulièrement des films de ce répertoire. C'est pas forcément les films qui vont rencontrer le plus de succès dans leur catalogue. On va plutôt s'attacher aux Fulci qui sont tout de suite à chaque fois très vite épuisés. Bon, mais donner aussi une chance à ces films-là qui sont des films extraordinaires, vraiment extraordinaires. Donc là, c'est Morgana de Juraj Hertz. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais c'est un très grand film. C'est un manifeste pour moi, ce film. Il n'a pas à rougir de la comparaison avec plein d'autres films de Juraj Hertz, qui est vraiment un metteur en scène passionnant, dont on a déjà parlé dans cette émission, qu'on aime beaucoup, et qui est vraiment un très grand metteur en scène. Vous écoutez Culture Prune. Autre film plus léger. Autre film qui a une petite aura de culte, hein, qui est sorti là par Artus Film, c'est Le Continent des Hommes-Poissons de Sergio Martino. Film de 79. Film un peu aussi de... Bon, bah, c'est la fin du cinéma bis italien, c'est la fin du cinéma italien d'ailleurs tout court, parce qu'il va mettre des années à se remettre de l'arrivée de Berlusconi, des financements de la télé, et on va perdre toute cette partie qui faisait le charme du cinéma italien, c'est-à-dire à la fois des auteurs et des grands films particulièrement passionnants, et puis de l'autre côté, ces mêmes scénaristes, ces mêmes techniciens qui travaillaient sur des plus petits films, des plus petites séries B, ce qui fait qu'il y avait des séries B qui étaient assez extraordinaires, puis après, bon, il y avait les séries Z, les Miles Dim et compagnie, mais là, on est avec un maître de l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler la série B, un artisan que je qualifierais d'artisan de génie, moi, Sergio Martino. Je trouve que, en particulier, on le voit dans ses giallos, que c'est un metteur en scène qui a... c'est pas un auteur dans le sens où c'est pas il est capable de mettre en scène des comédies très grasses, des trucs pas très voilà, mais c'est un artisan de génie, voilà, vraiment. C'est-à-dire que il a un sens de la mise en scène assez exceptionnel, et donc il sait aussi très bien masquer les petits budgets. On se rappelle de son 2019 après la chute de New York, qui est très très bon, mais qui est en même temps un cache-misère incroyable, hein, parce qu'il a pas un rond, hein, pour faire ce film là. Et Artus Film ressort vraiment un film culte, surtout pour ceux qui ont grandi dans les années 80, puisque c'est un film qui passait régulièrement sur M6, À la fin des années 80, je crois que c'est 87 la création d'M6, un truc comme ça. Donc le film va passer régulièrement sur M6, va devenir un petit objet de culte pour toute une génération de cinéphiles. On va s'arracher la VHS qui était quand même assez facile à trouver. Alors pourquoi ? Déjà parce qu'il y a la belle Barbara Bach, on est tous amoureux de Barbara Bach, hein, la James Bond girl qui a connu une carrière assez intéressante en fin de compte dans le cinéma bis italien. Il y a le très bon Claudio Cassinelli, qui malheureusement décédera sur le tournage d'Atomic Cyborg lors d'un accident. Il y a Richard Johnson, il y a Joseph Cotten là, qui fait une sorte d'émule du docteur Moreau hein, dans ce film-là. Et puis il y a Beryl Cunningham, l'actrice noire qui joue à chaque fois qu'on a besoin d'une actrice noire dans un film italien sur deux, c'est Beryl Cunningham. Voilà, hein, qui colporte souvent d'ailleurs des vieux clichés colonialistes. Elle est souvent très sexualisée, objet de désir, et elle-même a du mal à maîtriser sa libido. On va dire ça comme ça. Alors, l'histoire, c'est quoi ? C'est assez simple. Hein. C'est une histoire très classique. On est en 1891. Il y a un bateau de trafiquants d'esclaves qui sombre dans la mer des Antilles. Cinq rescapés parviennent à rejoindre une île qui semble déserte. Deux membres de l'équipage sont sauvagement massacrés et deux autres disparaissent dans d'étranges circonstances. Évidemment, il y a un petit coup des hommes poissons là-dessous. Et il s'avère que cette île est gouvernée par un dangereux despote, Rackham, qui retient prisonnier un biologiste et sa fille splendide. Alors, sa fille splendide, hein. C'est Barbara Bach, évidemment, hein, ça on s'en doute. Donc on se retrouve devant ce film qui est une vraie série B à l'ancienne, en fait. Faut pas aller chercher plus que ça. Bon, parfois il y a des faux raccords et tout. On sent que Martineau, il essaye un peu de masquer la misère sur certaines séquences à effets spéciaux et tout. Parce que bon, les costumes sont quand même pas super convaincants, hein, on va dire ce qui est. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est le talent de Sergio Martino. C'est tourné en Sardaigne, hein. On a vraiment l'impression d'être à l'autre bout du monde. C'est tourné en Italie. C'est extraordinaire. Ce mec a un talent fou. On a l'impression, on est totalement dépaysé alors que c'est tourné à quelques heures de chez nous. Et alors, ça mixe tout. Hein. Il y a du Jules Verne, il y a l'Atlantide, du vaudou. Hein, parce que tant qu'à faire, on va mettre...
Tant qu'il y a des noirs, il y a du vaudou.
Il y a du vaudou s'il y a des noirs, voilà. Exactement. Et il y a un savant fou, évidemment. Il y a des monstres. Voilà. Et puis, en fin de compte, tout cela, bon, ça fait partie d'une sorte de trilogie, film d'aventure, un peu de Martineau. Il y a eu La montagne du dieu cannibale, Le continent des hommes-poissons et Le grand alligator. C'est pas ses meilleurs films, mais c'est des films qui ont une patine assez sympathique, mon cher Thomas. C'est un retour au bon vieux cinéma bis des années 60, quoi.
Oui, c'est un film d'aventure qui est très sympathique, hein, que j'ai appris plaisir à revoir, hein. Là, grâce à cette belle copie d'Artus Film, effectivement, ça mixe un peu tout. Il y a des gros clichés colonialistes, hein, les servants noirs qui sont tout à fait serviles et qui ne disent jamais rien, qui sont tout à fait aux ordres. Et même quand à la fin, le méchant flingue leur femme, ben, les mecs, ils disent rien. C'est quand même assez drôle. Et donc oui, il faut le prendre comme une bonne série B d'aventures, matinée de fantastique. Et effectivement, on retrouve, il y a l'île mystérieuse, il y a l'île du docteur Moreau, il y a la créature du lac noir, tout ça. Bon, les hommes-poissons ne font pas très peur quand même, hein. Faut quand même l'avouer. Ils sont plus ringards qu'autre chose, et ils font plus rire que vraiment autre chose, quoi.
Je voulais dire, pour qu'on termine sur Le continent des hommes-poissons, qu'on vous conseille vivement, évidemment, pour des raisons différentes du Morgana de Jorge Hertz, hein, mais qu'il est complété, c'est une très belle édition, avec un digipack très très élégant, et dedans on peut y trouver un mini-livre qui est excellent, qui est signé Christophe Beer. On connaît tous la plume de Christophe Beer, hein, ça... Son style qui est vraiment fait partie des gens qu'on prend le plus plaisir à lire dans la critique cinéma. Il en fait d'ailleurs plus tant que ça, il en fait plus pour l'émission Mauvais Joueur sur France Culture, parce qu'il a plutôt donné de sa plume récemment ces dernières années pour écrire des romans d'un genre plutôt, on va dire, pornographique, il faut dire les choses, et voir scénariser des BD dans ce genre-là. Et là, il revient... Bon, il revient un peu sur le réalisateur, le film et tout ça, mais surtout, il se livrait ce qui s'appelle Ichthyanthropia, panorama des hommes-poissons au cinéma. Bah, tout est dit dans le titre, en fait. Il va revenir sur tout un tas de films avec des hommes-poissons. Donc, c'est assez chouette. Donc, écoutez, notre ami Christophe Beer nous enchante donc dans les bonus de cette superbe édition du continent des hommes-poissons de Sergio Martino chez Artus Film. Dans un ton très différent, mon cher Thomas, On va maintenant parler d'un film très très particulier, en fait, assez singulier, un film fantastique singulier, qui est un film d'un réalisateur qui a réalisé plusieurs chefs-d'œuvre, mais qui a réalisé l'un des plus grands films de maison hantée de tous les temps, l'un des plus grands films fantastiques de tous les temps, qui s'appelle La Maison du Diable. Je vais bien sûr parler de Robert Wise, et qui en 77 signe Audrey Rose, qui est souvent présenté à juste titre comme l'anti-exorciste. Nous, on aime bien l'exorciste, hein, mais effectivement, c'est un peu un décalque inverse du film de Friedkin. Là où Friedkin poussait les curseurs jusqu'au bout, là, on est plutôt dans l'inverse, dans la retenue. Et voici une histoire qui est aussi adaptée d'un auteur de roman que toi, tu aimes bien, Franck de Felita. Et d'ailleurs, ça ne va pas être très simple pour Robert Wise, parce que Franck de Felita et Robert Wise, ils vont un peu se friter. Et Robert Wise va réussir à faire enlever des choses du film. Mais Franck de Felita va repasser par la petite porte. Visiblement, il avait la cote à fond, Franck de Felita, à l'époque. Il réussit, par exemple, à imposer toute la partie à un procès dans le film. Robert Wise ne voulait pas du tout du procès. Il réussit à l'imposer. C'est vrai que le procès aujourd'hui, quand on le revoit, à l'époque, ça m'avait pas frappé, mais là, la revoyure, ça détonne un peu. Hein, voilà. Enfin, en tout cas, c'est sorti chez Rimini Éditions. Et puis, comme notre Thomas Roland préféré adore lorsqu'il s'agit de possession démoniaque, d'ailleurs, que là, ce n'est pas vraiment le cas, d'ailleurs, je vais laisser notre ami Thomas Roland exorciser ce film de Robert Wise. Écoutez Culture Prohibée, spécial fantastique et horreur.
Franck de Felita, ai-je appris en lisant Anatomie de l'horreur de Stephen King, que Stephen King déteste. Hein. Il dit que c'est un très mauvais écrivain, au même titre que John Saul, apparemment, et c'est deux écrivains qu'il déteste. Enfin, bref, c'est une parenthèse. Le roman, oui, c'est donc adapté d'un roman de Franck de Felita qu'il adapte lui-même en scénario. Le roman, il est inédit en français. Hein. C'est un gros pavé. Hein. Alors, c'est effectivement un film qui est qui va dans la vague du succès de l'Exorciste et qui en prend un peu le contrepoint. Mais pourtant, il y a quand même des choses qui font le lien. Donc c'est l'histoire de Elliot Hoover, qui est incarné par Anthony Hopkins, qui, à première vue, on a l'impression qu'il harcèle une famille, un couple qui a une petite fille, et il suit la petite fille à la sortie de l'école, etc. Et on apprend, en fait, finalement, il prend contact avec le couple, et il leur apprend que leur petite fille, en fait, est la réincarnation de sa propre petite fille qui est morte dans un accident de voiture. Alors bien sûr, ils se fritent un petit peu, hein, ils ne sont pas trop d'accord. Et finalement, qu'est-ce que nous raconte Audrey Rose ? Cet homme qui a perdu, il n'a pas tout perdu, mais il a quand même beaucoup perdu. Il a perdu son épouse, il a perdu sa fille. Il veut retrouver sa place de père dans la société, quoi. Il veut retrouver sa place de parent. Et finalement, c'est le combat de parents pour pouvoir retrouver la paternité d'une petite fille, quoi, quelque part. Mais Robert Wise aussi, il fait le lien en même temps avec son film La Maison du Diable, il fait le lien aussi avec quelque part l'exorciste, parce que quand il y a les crises, quand la petite fille a ses crises de réincarnation, on va dire, il y a ces plans sur les gargouilles qui ornent l'immeuble de ce couple, les Templeton. Et pour moi, il fait le lien avec. C'est là où il est un peu malin pour faire le lien avec le film de Friedkin quelque part. Mais bon, pour moi, c'est pas le meilleur Robert Wise. Hein. C'est un film que je trouve quand même assez mineur à la revoyure quand même.
Il y a aussi les scènes d'hôpital en fait, où la gamine souffre pas mal, et puis toute la dernière partie du film. Qui ont aussi un côté, parce que c'est vrai que dans l'Exorciste, les scènes parmi les plus effrayantes, c'est quand Regan, elle va à l'hôpital, en fait. Hein, c'est plus à la revoyure, c'est pareil. Les moments gros vomi et tout ça et tout, en fait, c'est pas du tout ce qui est le plus effrayant dans l'Exorciste. C'est vraiment ce qui est effrayant, c'est les examens qu'elle subit à l'hôpital. Alors, Audrey Rose, moi, c'est un film donc de Robert Wise que j'aime bien. C'est un film que j'aime bien parce que je trouve aussi que c'est un... C'est à travers le prisme du fantastique et de la réincarnation, en fait, puisque c'est le sujet du film, hein. Enfin, c'est un des sujets abordés dans le film. En fait, on aborde un autre sujet, en fait. On aborde un sujet qui a... C'est un drame, en fait, Audrey Rose, hein. Et c'est comment faire le deuil de son enfant. Parce qu'en fin de compte, c'est pas deux parents qui vont faire le deuil de leur enfant, c'est quatre parents, enfin, c'est deux couples. Puisqu'on va faire, on fait le deuil de la première petite fille, on fait le deuil de la deuxième petite fille. Ben voilà, il faut voir le film pour comprendre, évidemment. Je ne vais pas vous raconter le film. Hein. Mais c'est vraiment un film assez singulier. Moi, ce que j'aime bien, en fait, dans ce film de Robert Wise, c'est que Robert Wise ne va jamais où on l'attend. Et là, je crois qu'il sort à l'époque, il a fait l'Odyssée du Hindenburg, qui est une super production. Voilà. Et là, il fait un tout petit film, je crois que c'est 4 millions de dollars le budget. Et il fait un tout petit film, et dans lequel il décide de faire un truc très intimiste, en fin de compte. Ça ressemble pas du tout, c'est pour ça que je dis que le film est souvent qualifié d'anti-exorciste. Alors, anti-exorciste, c'est peut-être pas le terme exact, parce qu'il va pas contre le film de Friedkin, mais en tout cas, c'est un film qui est... là où il y a un film qui va dans la démesure, l'autre va dans une ambiance beaucoup plus feutrée, beaucoup plus calme quelque part plus touchante. Et c'est aussi la révélation d'un acteur, parce que je crois que c'est en voyant Anthony Hopkins dans ce film qu'Attenborough va le prendre pour Magic derrière. Et donc c'est la révélation d'Hopkins, hein, d'Anthony Hopkins, qui est à l'époque très jeune, même s'il a toujours une tête de vieux, en fait. Anthony Hopkins, c'est un mystère. Quel âge a Anthony Hopkins, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un film, pour moi, très particulier, assez singulier, en fin de compte, aussi bien par rapport aux autres films d'exorciste, aux autres films de réincarnation qui existent, que par rapport au reste de la filmographie de Robert Wise. On a presque envie de dire, on a presque l'impression que c'est le film d'un... Vous savez, ce genre de film, un peu comme Truffaut quand il fait Fahrenheit 451, c'est-à-dire le film d'un réalisateur égaré dans un genre qui n'est pas le sien. Alors que Wise est un vrai réalisateur de fantastique, hein, dès le début de sa carrière, hein, il fait des super films fantastiques avec Val Newton. Mais là, on a l'impression que, je sais pas, c'est un film vraiment singulier dans sa carrière.
Je trouve que toute une première partie est très bien. Il y a ce personnage d'Anthony Hopkins qui est quand même assez ambigu parce qu'il enlève la gamine à un moment. Hein. Et après, je trouve qu'on voit les coutures. Et je comprends maintenant, vu que je savais pas qu'il y a eu des problèmes entre le scénariste et le metteur en scène qui ne voulait pas de telle séquence, etc., etc. Et je trouve qu'après après cet événement-là, avec les séquences au tribunal, à l'hôpital, etc., je trouve qu'on voit les coutures. Je trouve que là, le film est un peu décousu.
En fait, Robert Wise n'aimait pas du tout le scénario de Frank de Felita, qu'il trouvait grossier, avec plein de diableries, d'effets spéciaux, de gros effets, de gros sabots, en fait. Et donc, il n'aimait pas. Mais il n'a pas réussi, il n'a pas gagné complètement son combat, en fait, contre Frank de Felita, qui a, au final, réussi déjà à imposer cette scène de procès. Lui, il ne voulait pas du tout de cette scène de procès, qui, c'est vrai, on peut le dire, aujourd'hui, elle a un petit côté ridicule, cette scène de procès. Enfin, elle n'est pas crédible du tout, alors que tout le film est assez crédible. Donc, et Robert Wise avait raison, faut le dire. Peut-être que Stephen King a raison aussi. Ça s'appelle Audrey Rose. C'est un film intéressant de Robert Wise, souvent oublié quand on s'intéresse à sa filmographie. Et c'est sorti chez Rimini Éditions. Alors, on va basculer chez ESC maintenant, puis on va surtout basculer, après des films relativement tout public, dans l'horreur, la vraie, la pure et dure. Voilà, pour cette deuxième partie d'émission. Alors, je vais d'abord vous parler d'un film. Alors, pour faire le lien avec Audrey Rose, qui est joué par Caden Rose, qui donne de sa personne, la pauvre, Thanatomorphose. Je vais vous parler de Thanatomorphose, qui est vraiment un film donc réalisé, produit, écrit par Eric Falardeau. Eric Falardeau, qui est un Canadien, je crois, hein, enfin, qui d'ailleurs dans les bonus, parce que l'édition est très riche en bonus, fait une présentation de son film et dit « Je ne comprends pas, je ne comprends pas le culte autour de mon film. Moi-même, je ne le comprends pas, je ne me l'explique pas. Qu'est-ce que c'est que ce film ? En fait, qu'est-ce que c'est que ce film ? Bah, c'est vrai que il est difficile à classer. D'ailleurs, c'est assez rigolo de voir dans les bonus Olivier Cachin, qu'on avait reçu dans l'émission, qui était plutôt un spécialiste des musiques, du hip-hop en particulier, de la musique noire, voilà. Et qui là s'exprime sur le film en expliquant la place qu'il tient dans l'histoire récente du cinéma d'horreur. Parce que c'est vrai que c'est un film alors vraiment singulier, mais qui pour moi est plus un film arty, en fait. C'est plus un film arty qui est une sorte... On voit des emprunts par moments un peu à Massacre à la tronçonneuse, ça on voit bien. Mais c'est plus un film arty qui est une sorte... si vous avez vu Dans ma peau de Marina Devane, d'ailleurs, que devient Marina Devane, voilà, moi, qui est un film que j'aime beaucoup, et c'est une sorte de version arty de ce film-là. Alors... ça raconte quoi? C'est donc Kaiden Rose, hein, enfin l'actrice Kaiden Rose, qui fait l'amour avec un homme. Et à partir du lendemain matin, elle commence à avoir des marques sur son corps. Et en fait, voilà, c'est l'histoire du film. C'est-à-dire qu'à partir de là, elle va rentrer dans une décrépitude. Petit à petit, son corps va entrer en décrépitude. Alors c'est vraiment dégueulasse. Hein, je vous l'ai... Alors c'est fauché, mais les effets spéciaux sont quand même très efficaces. C'est vraiment très, très, très dégueulasse. Voilà. Et elle va aussi rentrer dans une sorte de folie où elle va s'en prendre aux hommes. Voilà, elle va s'en prendre aux hommes de manière... sans que ce soit explicité. Hein. Il n'y a rien d'expliqué dans ce film, en fait. Moi, la problématique que j'ai avec ce film, je ne sais pas ce qu'il veut me raconter, en fait, Eric Falardeau. Par contre, le film reste une expérience assez impressionnante. On voit aussi que Falardeau n'a pas beaucoup de moyens, mais que malgré ses faibles moyens, il arrive quand même à composer un film qui tient sur une durée de long métrage et qu'on suit jusqu'au bout, tout en sachant très bien où il va nous emmener, en fait, hein, c'est-à-dire jusqu'à la décrépitude totale, jusqu'à la putréfaction totale de cette femme. Voilà. Alors c'est même par moments, à la limite, même dans la manière de filmer, tout ça, à la limite de la pornographie. Vous savez d'ailleurs que j'ai pas d'a priori sur la pornographie. On a déjà consacré des émissions à la pornographie, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pour expliciter un peu le côté gonzo du film, c'est-à-dire que la pornographie d'aujourd'hui, hein, vous voyez, puisque le film n'a pas une histoire vraiment, en fait, c'est un pourrissement, c'est l'histoire d'un long pourrissement. C'est un film vraiment particulier. Je le conseille pas aux âmes sensibles. Voilà. Mais c'est une expérience de cinéma particulière. Si vous êtes jusqu'au boutiste, moi, je pense que si ce film s'adresse à des spectateurs qui, par exemple, vont s'intéresser au travail de Jörg Böttger Heit, vous voyez, ce genre de cinéma underground. Et en plus, là, l'édition est belle. Il y a beaucoup de... Il y a tous les courts-métrages d'Eric Falardeau, hein, il y en a 6. Il y a le making-of, il y a les entretiens, je vous l'ai dit, il y a Olivier Cachin. C'est un OVNI, c'est un objet filmique non identifié. Ça s'appelle Thanatomorphose et c'est sorti chez ESC. Vous écoutez Culture Prohibée. Et chez ESC, ils nous ont sorti là aussi une édition hallucinante autour de La Dernière Maison sur la Gauche. Je ne savais même pas qu'il existait autant de montages, en fait, de La Dernière Maison sur la Gauche. Donc il y a la VHS, bon, la VHS qu'on connaissait tous puisqu'on l'avait tous. Il y a le film en version unrated, qui est la version en fait qui était sur le DVD aussi, hein, qui est une version complète. Il y a le montage Krug et compagnie, hein, c'est une version cut. Il y a un livre rédigé par Marc Toulec, l'affiche, 5 tirages de photos du film, des lobby cards, il y a des commentaires audio, Wes Craven, Sean Cunningham, David Hess, Mark Scheffler, Fred Lincoln, présentation du film par Wes Craven. Moi, ce que j'aime bien, il y a tout un travail qui est fait autour du Rape and Revenge avec une interview croisée de plusieurs autrices et critiques de cinéma femmes. Et Heureusement, parce que les intervenants n'en parlent jamais, mais Clara Sebastiao, pour moi, elle fait un parallèle très important, puisque Bon, j'avais écrit un article là-dessus à l'époque pour la revue Metaluna il y a longtemps, et ça fait peut-être 10 ans maintenant, je ne sais plus depuis combien de temps Metaluna, ça n'existe plus. Mais il y a un rapprochement à faire avec le vrai premier film de Wes Craven, parce que ce n'est pas son premier film. Le premier film de Wes Craven, c'est un film porno qui s'appelle Fireworks Woman, je crois, si ma mémoire est bonne, mais qui est dans lequel on retrouve plein de choses qu'on va retrouver dans La dernière maison sur la gauche. Donc ça, c'est intéressant. Alors, il y a encore plein d'autres bonus. Hein. C'est un coffret, c'est le coffret ultime, hein, vraiment, sur la dernière maison sur la gauche. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux, là. SC a fait un boulot phénoménal. Alors, évidemment, La dernière maison sur la gauche, pour quelqu'un comme moi, qui est dans la cinquantaine, c'est un film qui nous a profondément marqué à l'époque. Mais dans ce studio, on a un jeune homme. Alors, d'ailleurs, je tiens à dire, en plus, La dernière maison sur la gauche, il y a 10, un réalisateur grec qui avait été pris pour faire un remake. Et le remake est vachement bien aussi. Et qui rajoute de l'ambiguïté, en plus, au film, qui n'en manquait pas. Donc ça, c'est à dire. C'est à peu près le seul truc qui manque, c'est qu'il y ait peut-être le remake dans le coffret. Mais mon cher Damien, toi, qu'as-tu pensé de cette dernière maison sur la gauche? Film culte et particulièrement marquant pour toute une génération en termes de violence à l'écran.
La dernière maison sur la gauche, je crois que je l'ai découvert il y a un peu plus de 10 ans, quand j'ai commencé à me faire tous les Wes Craven pour compléter ma culture horrifique. Et c'est un film qui m'avait que j'avais adoré, que je trouvais terrifiant, violent, et qui m'avait marqué, et qui m'avait confirmé à cette époque comme quoi Wes Craven, c'était vraiment un grand maître dans l'horreur. Le seul défaut, et je vais l'évoquer tout de suite pour le mettre de côté, que je trouve, c'est la présence de la musique, en fait, qui, je trouve, est un peu mal gérée, un peu trop présente. Sinon, il a un début, le début du film est étrange, devient rapidement très sombre. L'introduction pose directement le contexte. On est dans un moment de liberté sexuelle. Il y a du coup l'héroïne qui va partir avec son amie pour une soirée, et ça va mal se passer pour elle parce qu'elle va tomber sur Krug et ses 3 associés qui sont des sadiques et des assassins qui vont leur faire énormément de mal. Et pour ceux qui ne connaissent pas le film, bah, la première partie, c'est cette jeune fille qui se fait agresser. La deuxième, c'est les tueurs qui finissent par lécher les parents de la jeune fille Marie sans le savoir. Et ses parents vont se rendre compte que leurs filles qui ont disparu, bah, les 4 personnes qu'ils accueillent sont peut-être liées à ça. Alors c'est un film horrible en soi, même en le revoyant aujourd'hui. Il est horrible dans le bon sens. Hein. C'est les images qui montent et l'histoire qui raconte est terrible. On dirait un des pires faits divers qu'il est possible de raconter. C'est un montage qui est... Wes Craven utilise aussi un montage qui est assez horrible. Dans la première partie, il entrecroise les parents en train de préparer l'anniversaire et l'agression de leur fille qui commence. On a une partie sadique et violente au début On pense qu'elle prend fin avec la mort de Marie, pour se rendre compte que la seconde partie est tout aussi identique, sauf que la violence change du côté. On a toute une horreur qui est croissante et qui augmente au fur et à mesure, qui est portée par le montage. Il fait vraiment un excellent travail au niveau du montage. C'est quelque chose qui m'avait pas marqué la première fois que j'avais vu, mais que là, je redécouvre. En plus, on a des réactions extrêmement humaines face à ce qui arrive lorsque Marie se retrouve avec sa copine Phyllis dans les bois et qui les oblige à faire l'amour devant eux. C'est horrible. On voit Marie qui fond en larmes. C'est vraiment des images qui sont assez dures, même encore aujourd'hui. C'est un film qui est tellement violent qu'à l'époque, il s'est fait énormément critiquer, comme beaucoup de films de Craven, par rapport à sa violence. Et c'est pas un hasard, parce qu'il y a beaucoup de moments qui sont horribles. Mais c'est vrai qu'il pose ce que j'aime bien, et ce qu'on retrouve dans ces films, il pose ce côté de... Il y a des personnes qui sont extrêmement violentes, extrêmement sadiques, extrêmement maléfiques. Et on a en face une certaine bourgeoisie qui se voit un peu plus noble, mais qui, mis face à une situation vraiment extrêmement dure, deviennent eux aussi des criminels. J'aime bien, en fait... ce dialogue, cette mise en face à face de la violence que Wes Craven maîtrise à la perfection. Donc La dernière maison sur la gauche, ça reste, comme la majorité des films de Wes Craven, un chef-d'œuvre de l'horreur.
Il y a quelque chose aussi qui est souligné dans les bonus et qui est loin d'être idiot, hein, qui est carrément même hyper pertinent, c'est le fait que Wes Craven... comme Paul Schrader, sont deux réalisateurs qui, avant de travailler dans le cinéma et de finir à Hollywood n'étaient pas du tout destinés à travailler dans le cinéma, n'avaient jamais vu de film quasiment de leur vie avant l'âge adulte, parce qu'ils ont été élevés dans des milieux très croyants, très rigoristes. Et Craven, c'est quand même assez étonnant, parce que Craven, faut savoir que Craven, il a toute une, ça s'est bien développé dans les bonus, hein, mais Craven, il se dessine à devenir, enfin, il est même professeur, et il abandonne tout quand il découvre le cinéma, et il, c'est du, tout autour, il part d'un monde rigoriste pour aller vivre dans une communauté baba cool et faire du cinéma. Il a plus un flèche, plus rien, il s'en va, il part à l'aventure, il abandonne tout, même je crois femme et enfant, hein, si ma mémoire est bonne. Donc c'est un changement de vie pour lui, très étonnant. Après, moi je trouve que La dernière maison sur la gauche est un film particulièrement marquant, mais moins bon que La colline à des yeux, que je trouve beaucoup plus maîtrisé. La dernière maison sur la gauche, il y a quand même ces scènes avec la marée chaussée, là, ces scènes comiques, qui confère un aspect un peu étrange au film, mais qui parfois me désarçonne, me sort un peu du film. Moi, je serais allé encore plus loin. Moi, j'aurais pas mis les moments, les intermèdes humoristiques, quoi.
C'est sûr qu'il y a des ruptures de ton assez abruptes, mais je pense que ces ruptures de ton avec cette musique comique, cette espèce de duo à Laurel et Hardy, je pense que justement rendent encore plus durs les passages cruels.
Je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que le fait d'avoir une police qui finalement vit un peu sa vire de « Oh, on a crevé notre voiture, on se balade », alors qu'à côté, on a deux filles qui sont en danger, qui sont agressées, ça renforce l'horreur de la situation.
En tout cas, La dernière maison sur la gauche, vous n'avez jamais eu une telle édition. C'est à se procurer de toute urgence. Énorme édition sortie chez ESC. ESC qui nous sort aussi un autre film mignon tout plein, Bio Omega de Joe D'Amato, Aristide Massacesi. Alors, bon, Blue Holocaust de Joe D'Amato, hein, voilà, un film vraiment, vraiment très étrange. Alors, c'est le remake d'un film de Mino Guerini, hein, Le Froid Baiser de la Mort avec Franco Nero, c'est un remake revendiqué, hein, de toute façon, par D'Amato, il s'en est jamais caché. C'est un film gothique, un film de 1966, dans lequel Franco Nero, après le décès de sa fiancée, survenu dans des circonstances particulières, je ne vais pas vous raconter, je crois que c'est Il Terzo Occhio, le titre italien du film, il est poussé à la folie, puis il devient un psychopathe. Voilà. Alors là, c'est pas Franco Nero, c'est un drôle d'acteur d'ailleurs, Kieran Canter, qui est un acteur qui fera pas spécialement carrière, qui est un belâtre, mais du coup ça donne un aspect encore plus particulier, singulier au film, parce qu'il a l'acteur a un côté un petit peu transparent, mais en même temps un petit peu inquiétant, enfin vraiment, parce qu'il est pas mauvais en plus, on y croit, quoi. C'est assez étonnant. Et sa fiancée Anna, elle meurt, hein, mystérieusement. Alors, mystérieusement, des suites d'un rituel vaudou initié par sa gouvernante, en fait, et sa gouvernante avec qui il a une relation très, très étrange. À un moment, on la voit lui téter le sein. Elle est un peu amoureuse de lui. Enfin, c'est vraiment très, très glauque. Hein. Ça a presque un caractère incestueux, la scène que l'on voit. En plus, il y a une différence d'âge entre les deux. Enfin, c'est assez étonnant. Après, Joe D'Amato ne recule jamais devant une petite provocation. Hein. Et en fait, lui, il refuse d'y croire. Alors, comme il est taxidermiste à ses heures perdues, il vit dans un grand domaine. Il n'a pas besoin de travailler, en fait. C'est ce qu'on appelle un rentier, quoi. Voilà, il a un immense domaine incroyable, une demeure gothique hallucinante. Et il décide d'embaumer sa bien-aimée. Voilà. Et de la garder près de lui. Et puis, en fait, avec cette gouvernante un peu étrange, la Iris, il va petit à petit basculer. Donc, il va commencer à... Bon, c'est assez crapoteux quand même. Il va commencer à ramasser des femmes, les tuer, leur faire l'amour à côté du cadavre de sa compagne. Assez étrange, assez craspec quand même. Et puis le film, alors on est à un moment quand même particulier. On sait que D'Amato poursuit d'étranges, en fait, obsessions dans son cinéma. Il y a vraiment quelque chose d'assez étonnant. C'est pas un simple réalisateur bis Z même, hein, parce que lui, il a fait vraiment des budgets ridicules. Il y a vraiment cette obsession de mélanger chez lui quelque chose qui est de l'ordre de la pornographie, voire de la pornographie, parce qu'il va finir sa carrière en réalisateur pornographique, et le gore. C'est quelque chose qui revient, mais alors énormément dans sa carrière. Porno Holocauste, La nuit fantastique des morts vivants. Et puis là, il y a ce film qui arrive, qui est clairement... Il y avait aussi Emmanuel et les derniers cannibales, hein, mais c'est ce film-là là, qui arrive, là, qui est sans doute son meilleur film, enfin l'un de ses meilleurs films en termes de film horrifique. Moi, c'est un film qui nous avait profondément marqué à l'époque de sa sortie et qui a gardé pour moi une certaine poésie, un certain... Voilà, qui reste pour moi un film assez étrange. Alors, il faut rentrer dedans, parce que si on ne rentre pas dedans, on s'ennuie. Hein, par contre, hein, mais par contre, si on rentre dedans, on rentre dans une certaine langueur, une certaine presque moiteur comme ça, très très étrange. D'Amato, qui peut être un esthète, fait le choix de quelque chose d'assez vériste, en fait, d'un film assez vériste. Et lui est un très bon directeur de la photo, on le sait, il a fait de la photo de certains giallo et tout, elle est sublime. Et là, il décide de faire quelque chose de très réaliste. C'est très, très étrange. Et puis, le film comporte quand même des scènes assez démentielles. Hein. Y a un moment, il bouffe un nibar à pleines dents. Il y a un autre moment, il se débarrasse du corps d'une autostoppeuse en le foutant dans de la soude, là, c'est dégueulasse. Enfin, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Enfin, on peut dire que c'est vomitif. Et puis, au milieu de tout ça, il y a une scène étrange de mariage avec tous les dégénérés du village qui, là, on se croirait presque chez les frères Taviani. C'est très, très étrange. C'est très, très bizarre. Et on se demande un peu où il veut en venir, hein, D'Amato. Mais du coup, ça continue, parce que c'est un film tourné en Super 16, donc qui a un côté très granuleux. Ça accentue le malaise de ce film très, très bizarre. Et alors, tout cela est dit avec beaucoup plus de talent par Jean-François Roger dans les bonus, hein, qui raconte beaucoup de choses très, très intéressantes. Et puis, évidemment, aussi... On parle de Joe D'Amato, il y a David Didlot qui traîne dans un bonus, notre ami David, parce que bon, c'est quand même Joe D'Amato, son réalisateur fétiche, son réalisateur culte. Et puis en plus, hein, ce Blue Holocaust, donc là, de Joe D'Amato qui est disponible chez ESC, il y a une BO des Goblins. Vous vous doutez bien que moi, dès qu'il y a une BO des Goblins, je suis un homme heureux. Voilà, donc pour tous les amateurs de poésie et puis de films tout public, je vous conseille Blue Holocaust. Donc à ne pas mettre devant tous les yeux, vous m'aurez compris. Étude quasi clinique d'un cas de dégénérescence mentale et de psychopathie très perverse. Vous écoutez Culture Prohibée, spécial fantastique et horreur. Et on va terminer parce que une émission horrifique sur le cinéma horrifique sans un slasher n'est pas une bonne émission, hein, voilà. Donc on va terminer par un film sorti chez Rimini Éditions. Alors un film qui a longtemps joui d'une aura très culte, hein, parce qu'on ne pouvait pas le voir en fait, de Charles E. Sellier Jr. Ça s'appelle 12 nuits sanglantes nuits. Alors là, je ne vous parle pas des remakes, je vous parle de l'original, hein, qui est sorti en 87, mais en fait, qui normalement, initialement, est sorti en 84. Mais il a eu tellement de démêlés avec la censure qu'il a fini par arriver chez nous en 87. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, c'est l'histoire d'un gamin. Alors déjà, il va avec sa famille, ils vont dans un hospice voir papy. Papy, qui est complètement dégénéré, frappé du ciboulot, qui cabotine pas trop, hein, cabotine à mort l'acteur, et qui fait flipper son petit-fils en lui disant « Ouah, tu verras, le Père Noël, il est méchant, il vient punir les gamins, méchant, il est très méchant. » Et paf, qu'est-ce qui se passe? Au même moment, pas loin de l'hospice, il y a un type qui certainement faisait Père Noël pour arrondir ses fins de mois, durant les fêtes de fin d'année. Il a l'air pas très très bien dans sa tête, il fait un braquage dans une station-service, il flingue, voilà, boum boum. Et puis... il croise la route de ses parents et du petit garçon en train de revenir de l'hospice. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il tue le père, il tue et il viole la mère, tout ça sous les yeux du gamin, évidemment. Hein. C'est bien, bien glauque. Le gamin en réchappe, évidemment. Alors, il a un frangin aussi qui en réchappe, qui est tout petit bébé au début du film. Et puis, on le retrouve des années plus tard dans un... Il s'appelle Billy. Il est devenu adolescent. Il est plutôt gaulé comme un mec de 25 ans. Enfin, dans le film, il est adolescent. Il est devenu adolescent. Et puis, alors déjà, on le voit un peu enfant. C'est très long, la première partie, avant que ça bascule dans le slasher. Il y a une demi-heure où on a toute... Ça fait d'ailleurs un peu l'originalité du film. Où on a toute l'enfance du gamin. Et puis, la mère supérieure, parce qu'il y en a une qui est gentille, de nonne. Puis il y en a une qui est très méchante, celle qui dirige. Elle est très méchante. Excusez-moi de vous dire ça, elle est très conne aussi. C'est-à-dire que tous les ans, elle le force à participer à la fête de Noël, alors que le gamin est totalement trauma. Hein. En plus, il est un peu voyeur sur les bords, il en voit forniquer dans les... Voilà. Enfin bon, bref, c'est pas de sa faute, hein. Il tombe dessus, mais quoi qu'il en soit, il a du mal à dépasser ce qui lui est arrivé dans son enfance, on se demande bien pourquoi. Hein. Et puis alors, bonne idée, il lui trouve un job quand il est ado. Ben à quoi faire ? Aller bosser dans un magasin de jouets pendant les fêtes de Noël. Magasin de jouets, où le premier truc qu'on voit dans le magasin de jouets, c'est une hache énorme. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont comme idée dans le magasin de jouets ? Bah de lui faire jouer le Père Noël pour les fêtes de fin d'année, pour que les gamins viennent se faire prendre en photo sur les genoux. Bah évidemment, ça va mal finir, Damien.
Ce qui va vraiment faire basculer Billy dans sa violence, c'est pas tellement le fait qu'il est habillé en Père Noël. Ça, il arrive à le gérer. Ce qui va le faire basculer, c'est qu'il va voir quelqu'un mal se comporter, essayer de violer donc sa collègue qu'il aimait bien. Et qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est méchant ? Bah, la nonne lui a appris, on le punit. Et c'est là où tu vas avoir toute la dérive de la violence qui va se relâcher de Billy. Alors, dit comme ça, le film, il fait un peu plus intelligent, mais ça reste un nanar. Par contre, il a une grande force. Alors...
C'est pas un nanar, c'est un bon slasher.
C'est un bon slasher.
Mais le scénar vole pas haut, quoi. Mais c'est un bon slasher, franchement.
Oui, parce qu'au final, il est bien écrit. C'est vrai que t'as de grosses lignes, mais au final, t'as une certaine finesse. Par exemple, le déclic, il est bien amené. C'est-à-dire qu'on sait que ça va péter un moment parce qu'il a grandi dans un milieu totalement traumatisant qui a manqué de bienveillance. Et il se retrouve face à un cocktail de folie qui va exploser à un moment. Et le truc qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un film qui a été aimé à sa sortie. Alors, il a été énormément détesté. Il est sorti en 84 en même temps que Les Griffes de la Nuit. Il a mieux marché au cinéma que Les Griffes de la Nuit. Et s'il n'avait pas été déprogrammé parce que les maires ne voulaient pas avoir un Père Noël tueur dans les salles, il aurait pu battre Wes Craven peut-être au box-office. Mais c'est un film qui est ultra particulier au final parce qu'il rejoint un peu sa liste de films de slasher un peu particulier. On se dit, tiens, on va prendre une fête populaire, on va y foutre un tueur, on va voir comment ça va fonctionner. Alors, Halloween, ça a très bien fonctionné. T'as eu un truc à Saint-Valentin, ça a moins fonctionné. T'as aussi eu un truc à Pâques. Dès qu'il y a une fête, ils se disent qu'on va foutre un tueur. Et récemment, bah, on a eu Thanksgiving de Eli Roth. Mais ouais, au final, 12 nuits, sanglantes nuits, il vaut le coup d'œil parce qu'il est extrêmement particulier. Justement parce que sa première partie n'est pas un slasher, c'est vraiment la mise en place de la psychologie du gosse. Et la deuxième partie, c'est les meurtres. Et même les meurtres, il y en a qui sont cool et il y en a d'autres qui sont vraiment... pas très cool, mal filmé, mal monté. Mais c'est un film qui vaut quand même le coup d'œil.
Il y a un meurtre culte, d'ailleurs, qu'on peut voir grâce à Rimini. On peut voir la version intégrale du film, qu'on ne pouvait pas voir jusqu'ici. Et on a le meurtre culte de Linnea Quigley, une grande scream queen, qui a, comment dire, émoustillé tous ceux qui ont vu Le Retour des Morts Vivants de Dan O'Bannon, puisque c'est la punkette qui fait un striptease à un moment. Et il y a ce meurtre culte de Linnea Quigley qui est empalé sur un cerf, sur les bois d'un cerf, qui a, vous savez, ce genre de cerf, ces têtes de cerf qu'on accroche au mur là quand on est chasseur, parce qu'on est fier de ses trophées. 12 nuits sanglantes nuits. Vous n'avez pas découvert le chef-d'œuvre du siècle, mais un bon petit slasher des années 80, signé Charles Isselier Jr. Et c'est donc disponible chez Rimini Édition. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Straight ahead, keep moving straight ahead.